Je vais vous demander une dernière chose. Les quêtes pour les œufs, vous le faisiez ici à Carénac, ça se faisait? Au mois de je sais pas, Pâques, au mois de mai,
non.
Les quêtes de... Non, vous ne le faisiez pas ici, ça.
Non. On ne faisait pas de quêtes.
Ah ouais. Parce qu'à Vérac, il me semble que ça se faisait, ça, le truc de l'omelette, non?
À Vérac, je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
À Vérac, il y avait une coutume, c'est qu'il y avait eu un don d'une personne. Ils avaient donné le terrain qu'il y a après Vérac, là, qui c'est un terrain de sport, il y a la piscine maintenant. Et alors, cette personne avait exigé que le jour de Pâques, on aille danser sur ce terrain. Sinon, si cette coutume n'était pas maintenue, le terrain revenait à la famille du disparu. Et ça, c'est... On y est allé, même j'ai participé à ces animations, que la sourdoire avait débordé, il y avait ça de flotte dans le pré. Il fallait qu'on monte sur une charrette pour aller jouer dans le pré. Enfin, on y allait quand même, et puis voilà. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est aboli, tout ça, je ne sais pas. Mais je n'ai pas entendu dire qu'il y ait de quêtes comme ça se faisait dans certains endroits, où les enfants collectaient des œufs. Non, pas ici. Je n'ai jamais entendu dire. Vous savez, ici, dans le bourg de Carénac, il y avait bien des gens qui n'étaient pas riches, mais il y avait beaucoup de bourgeois qui n'étaient pas riches non plus, mais qui ne voulaient pas paraître pauvres.
Ils avaient un certain statut, quoi.
Ouais. Si bien que mon grand-père maternel disait... Il passe dans la salle à manger pour manger un lardon à la pointe de la fourchette. Lui.
Comment ça se fait? Parce que c'était quand même. C'était un village un peu où les gens ils avaient une certaine fierté. Ou une certaine indépendance.
Ce village, il est vieux comme Hérode. Hein.
C'est ça, oui.
Oui. Vraisemblablement, c'était habité au temps préhistorique. Ça, c'est sûr. Bon. Les hommes s'y sont succédés. On trouve des sarcophages, on a découvert il n'y a pas longtemps, des sarcophages mérovingiens. Mais dans les environs de Carénac, il y a d'anciennes tombes, des tumulus, des dolmens, qui datent tous à peu près de la même époque. Ça s'étage entre la fin de la pierre polie et le commencement du fer. Ça fait un millier d'années, hein, au moins, même un peu plus. Mais avant, il y avait aussi des gens qui y ont vécu ici, ça, c'est incontestable. Pourquoi? Parce qu'ils y trouvaient à boire, à manger, hein, et l'abri sur les rochers partout. Voilà, c'est sûr. Alors, petit à petit, le village s'est formé. D'ailleurs, il y a des fortifications dans la ville, des fortifications gauloises, juste au-dessus de chez moi, là. Oui, qui borde le plateau là-haut. Et Carénac, à l'origine, ça a peut-être été un village de pêcheurs. De toute façon, il y a un chemin qui longe le plateau, en haut, là, le plateau du Causse, et à chaque vallée de ruisseau, il y a un chemin qui descend jusqu'à la Dordogne. Depuis... On a tout lieu de supposer que ça a existé. Ça a d'abord été, comme on disait, une royole, c'est-à-dire un petit sentier.
Une draille,
mais la draille, c'est plus large, ça. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Ouais. Les hommes, ils descendaient à pied. Après, il a fallu élargir parce qu'on y a probablement descendu les troupes pour les faire boire. C'est pour ça que c'est devenu une draille. Après, on a appelé ça les commis péchouniers. Et oui. Et puis voilà, alors, bon, il y a probablement des gens qui ont préféré se livrer à la pêche en permanence et vendre le poisson, et qui ont habité ici. Bon. Le prieuré, ici à Carénac, on en parle pour la première fois dans le cartulaire de Beaulieu. en 932. Le vicomte de Quercy faisait don du prieuré de Carennac à l'abbaye de Beaulieu et de la villa Saint-Jean du pêche de Tonac. Donc il y avait une villa mérovingienne, romaine autrefois, ou gallo-romaine là-haut. D'ailleurs, il y a les restes, vous comprenez. Donc c'est pour vous dire qu'il y a longtemps que tout ça s'est habité, c'est évident. Hein. Alors ça a été ruiné, ça a été démoli, d'abord par les Normands, ensuite par la guerre de Cent Ans, les deux guerres de Cent Ans même, les guerres de religion. On disait que c'était désert et ruiné. Pas tout à fait. Mais les gens quittaient le bourg parce que les gens, ils mouraient. Alors, ils préféraient foutre le camp dans le Causse plutôt que de rester là pour attraper la crève. Vous comprenez ? Ce qui fait que quand la peste, comme on appelait ça une peste, était passée, ils revenaient. Mais ils attendaient assez longtemps. D'ailleurs, dans les rues de Carennac, dans le prieuré là-bas, on a trouvé, en creusant pour faire les tranchées de l'eau, on a trouvé 5 squelettes alignés côte à côte là, qui étaient recouverts de chaux. Comment ? Donc c'était une épidémie ou de peste ou de choléra peut-être, je ne sais pas. Mais, enfin, c'était une épidémie, c'est sûr. Alors vous me disiez.
Alors je disais que les gens, les familles et tout ça, ils avaient un sentiment un peu d'indépendance, peut-être, ils avaient une certaine fierté dans la commune. C'est pour ça que peut-être ils se donnaient ce côté un peu bourgeois. Je ne sais pas, je pose la question, je ne sais pas. Certains.
Vous voyez, c'est tout à fait exact, ça. Parce que ils se sont.
Parce que chaque
fois,
chaque fois. Je vous coupe, mais avec tout ce que vous savez, vous pourriez faire la monographie du village.
Mais j'y travaille.
Oui, c'est ça, oui.
J'y travaille. Et je pense que j'y arriverai un jour, je ne sais pas. Enfin, si je ne le fais pas, d'autres le font. Mais, oui, parce que, alors, en 932, donc, le prieuré a été donné à l'abbaye de Beaulieu. Mais puisqu'il y avait un prieuré, c'est qu'il y avait des religieux. Au moins un. Bon. De quel ordre faisait-il partie? On ne sait pas. Rien ne le dit, rien ne le prouve. Mais il y avait un prieuré, donc il y avait une église. Il y avait. Alors, c'est la première fois qu'on parle de Carennac. Et je vous dis, c'était le comte de Quercy et sa femme qui faisait donc à l'abbaye de Beaulieu du prieuré de Carennac en réparation de leur faute. Ouais. Donc ils avaient péché par lui. Et à partir de ce moment, alors, ça c'était, alors, en l'an 1060 par là, l'abbé de Cluny, qui s'appelait Odilon, est venu visiter le prieuré pour voir s'il pouvait y installer des religieux. Et en 1070, par là, il y a installé les moines avec la règle de Cluny, de Saint-Benoît. C'était des bénédictins. En principe, il aurait dû y avoir 15 religieux. Mais il n'y en a jamais eu que 11. Et même à la fin, il n'y en avait plus que 4 qui n'observaient plus la règle. Bon. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même ancien, puisqu'il faut remonter à 1060... à peu près, l'origine du monastère. Alors, chaque fois qu'il y a eu des épidémies, chaque fois qu'il y a eu des guerres, et que les gens avaient fichu le camp ou étaient morts, il a fallu repeupler. Pour repeupler, il a fallu consentir des avantages. Vous comprenez ? On a à la mairie le livre des reconnaissances des anciens seigneurs. C'était pas gratuit. Mais ils avaient un avantage. C'était en somme des amphithéotes. Vous voyez ? Alors, on leur donnait une terre, ils versaient une rente aux doyens, mais la terre était à eux. Voilà. Vous comprenez ? C'était reconnu par le doyen ou son représentant. Et on a à la mairie, on appelle ça dans certaines choses le terrier. Oui. Hein. Mais ici, c'était écrit dessus, il y avait marqué « Livre de reconnaissance des anciens seigneurs ». Et ça date de 1633. Ah oui, je l'ai restauré d'ailleurs, parce qu'il me l'a fait ruiner, le pauvre. Et il est à la mairie, on peut le consulter quand on veut. Eh oui. Alors, chaque fois que les habitants de Carena ont eu quelques, disons-le, privilèges de plus que les autres, ben oui, c'est naturel, ça. Ils se sont sentis un peu plus... C'est comme ça qu'on crée les différences. Ça n'a pas changé. Hein.
Oui, bien sûr.
L'homme est toujours l'homme. Voilà. Alors, en plus, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que à la fin, les gabarres n'étaient pas remontés.
Oui.
Mais à l'origine, si. Oui. Il y avait un chemin de halage sur le bord de la Dordogne. Après, on ne s'en servait que jusqu'à Souliac. Oui. Mais avant, si, elles étaient remontées au moins jusqu'à Beaulieu. Vous comprenez ? Les bateaux, on les faisait solides. Après, ça ne valait plus le coup. Mais au commencement, certainement, si, les gabarits remontaient les gabarres. Bon. Le bac en bois de Gentrac, un jour de crue de la Dordogne, est descendu jusqu'à Creys, là-bas. Ils l'ont remonté à bras. C'est pas un petit boulot, hein. C'est probablement la dernière gabarre qui est remontée le cours de la Dordogne. Mais ils ont bien juré qu'ils ne recommenceraient pas.
C'était en quelle année, ça, vous savez pas ? C'était à quelle époque, ça ?
Oh, c'était en 1900... Oh, écoutez, 40... 7, 48... 48 ou 49. Peut-être 50. J'étais marié, toujours. Donc, je me suis marié en 47. Et mon cousin y avait participé, là où il avait une frousse de l'eau, lui. Il était plus mort que vif. Il vous risquez pas grand-chose sur cet engin. Mais ma tante, de Gentrac, était partie en croisière avec une fois.
Ah bon ?
Oui.
C'est-à-dire ?
Ils avaient des champs dans le bois des Esquanes, là-bas, dans l'île des Esquanes. Et elle y allait, l'eau était haute. Alors ce bac, vous comprenez, il y avait un crochet sur un angle d'un côté et un crochet de l'autre. Ce qui fait que le bac traversait l'eau par ses propres moyens. Il y avait une poulie. Ce qui fait qu'on changeait la servante, le câble qui reliait le bac à la poulie, ça s'appelait la servante. Il y avait un bout de chaîne au bout là, et alors on accrochait donc le bac après cette servante, et le courant qui agissait sur le côté le plus long poussait le bac vers une rive ou vers l'autre, ça dépendait. Et le passeur avait simplement un gouvernail qui lui servait à maintenir le bac suffisamment orienté pour que le courant le pousse. Mais quand l'eau était très haute, il fallait faire attention, vous comprenez, parce que ça... Eh oui. Alors cette fois-là, le passeur a lâché la servante avant qu'elle se soit accrochée. Ce qui fait qu'ils sont partis tous les deux à la dérive avec ma tante, qui n'était pas contente du tout. Hein. Et c'est le maire de Gentrac actuel qui est allé les chercher.
Allô ?
Sur le bac, en face de sa grange qu'il a, là, juste en bas de Gentrac. Il est allé les rattraper, et puis il les a ramenés sur la berge, et le bac s'est arrêté au pont de Carena, qui avait un remous. Il s'est mis à tourner dans ce remous, il n'a pas pu en sortir. Ce qui fait qu'on l'a arrêté là, et puis ils l'ont pas remonté à bras. Ils l'ont chargé sur un camion, ils l'ont remonté. Autrement, ma tante était partie en croisière sur le bac. Alors, ça a été quand même un centre un peu commercial, Carennac. Si vous vous promenez dans le bourg, il reste encore des échoppes d'autrefois. Et les gabarres qui remontaient le sel, remontaient du poisson salé. Vous comprenez ? Et en amont de Carena, il y avait le port de Salles, c'est là qu'on déchargeait le sel. Vous comprenez?
Ces échoppes, c'était surtout des artisans aussi?
Il y avait des artisans, il y avait des commerçants, il y avait... Oui, bien sûr, oui. Oui. Mais on en a démoli pas mal. On en a démoli une. Je passais quand on... C'est des échoppes, il y a la porte d'entrée, et puis il y avait le chose pour l'étalage, là. Ils étaient en train de vouloir casser la pierre qui avait servi à étaler la marchandise. Si vous n'allez quand même pas casser cette pierre-là. Le type m'a dit, mais tu la veux? Et j'ai dit, oui. Moi, je la prends si vous voulez la casser. Et il m'a dit, pas de problème, tu viens la chercher. Je m'en suis servi pour faire un appui de fenêtre. J'ai pas eu besoin de la tailler. Elle était prête. Il en reste deux. Il y en a une en partant d'ici en bas, là. Quand on arrive au croisement vers la rue qui monte vers le calvaire là-haut, à gauche, il y a les chopes. Il y en avait autant de l'autre côté, il y en avait même deux de l'autre côté. Mais là, ils les ont démolis pour faire des portes de garage. D'ailleurs, celle que j'ai sauvée, moi, là, c'était pour faire une porte de garage aussi, qu'il a foutu en l'air. Et alors, en descendant, après, en face de la poste, il y a une grande maison, c'est une des plus belles maisons de Caranac. Et alors, à droite, il y a une échoppe dans le mur, mais c'est une échoppe voûtée, celle-là. Alors, c'était un magasin aussi. Ouais. Ou artisan, ou commerçant, je ne sais pas. Mais il y avait des commerçants qui étaient évidemment plus riches que ceux qui habitaient le Corse, qui allaient en journée. Dans le Corse, vous avez... D'ailleurs, il y avait un millier d'habitants à Caranac, en 1800 par là. Dans le Corse, vous avez des tas de ruines qui étaient habitées. Ça se voit. Il y a des cheminées, encore des petites cheminées. Il y avait d'un côté les bêtes, de l'autre côté les gens. Des fours à cuire le pain. J'en ai photographié, j'en ai là. Dans le Corse. Ah, il y avait une vie que nous ne connaissons pas. Et que vous savez, de toute façon, Caranac, c'est un village qui meurt. Parce que tout c'est... Le village a été restauré, mais les gens n'y restent pas. Vous comprenez? Qui c'est qui fait vivre une commune? Ce sont ceux qui restent, qui ont des enfants, qui y travaillent. Les autres, ils arrivent, ils restent 15 jours, ils en vont. Vous comprenez?
Enfin, si, encore l'école, quand même, heureusement, mais il y a...
L'école, on l'a sauvée, vous savez comment? Il y avait trois instituteurs à Caranac. Un à Magnac, deux à Caranac. Bon. Le poste de Magnac a été supprimé, il n'y avait pas assez de gosses. Bon. L'inspecteur m'a dit, j'étais maire à cette époque-là, il faudrait créer une section enfantine, sinon on ne pourra pas garder... Alors on a créé la section enfantine tout de suite. Mais, bon... Je ne regrette rien.
De l'investissement.
Moi, je suis content, même quand je vais chercher mes gosses, là, de voir les gens, les gosses qui viennent d'ailleurs, oui. De bétail, etc. Oui. Bon. Mais de Caranac, il n'y en a pas beaucoup.
Oui,
vous comprenez? C'est ça.
Alors, c'est un peu général dans les petits villages de
l'Orte. Et on ne fait rien pour que ces petites communes vivent. Le tourisme, oui. Mais le tourisme qui passe comme à Caranac, là, il s'arrête sur la palissade, ils vont regarder, ils donnent un coup d'œil au tympan et puis ils se tirent. Et qu'est-ce qu'il reste à la commune, là? Rien. Vous comprenez? C'est pas ça qui va faire vivre le... Alors, nous avons 370 habitants maintenant. En 1959, il y en avait 501. Et 100 ans plus tôt, 957. Bon. C'est éloquent, ça. Vous comprenez? Alors, il y a eu le phylloxéra. Oui. Il y avait près de 200 hectares de vignes sur le territoire de la commune ici. Le phylloxéra a tout foutu en l'air. Les gens se sont trouvés ruinés du jour au lendemain. Les journaliers n'avaient plus de travail, donc. Et à cette époque-là, c'était beaucoup plus facile pour trouver du travail en ville. Et même pour entrer dans la fonction publique. On allait trouver le député. 10 jours après, vous étiez casé. Soit à la police, soit à la gendarmerie, soit dans l'armée, soit. N'importe. Hein. Les gens n'étaient pas difficiles. Hein. Ils ont commencé de vider les campagnes comme ça. Bon, mais là. C'était des cas de force majeure. Mais après, on n'a rien fait pour arrêter ça. Oui. Et on continue. Bon, je vous dis ce que je pense. Hein.
Ah oui, non, monsieur. Et maintenant, c'est même à l'échelon régional, parce que les capitales régionales pompent toutes. Comme vous voyez, qu'est-ce que c'est devenu Toulouse et tout ça.
Alors, vous comprenez, les moyens n'accompagnent pas. Parce que tous ces gens qui passent, maintenant, ils ont des voitures. On est obligé de créer des parkings. Bon, mais les parkings, ça coûte cher. La commune n'a plus les moyens. De toute façon, je n'ai... Depuis la Révolution, puisqu'avant, il n'y avait pas de conseil municipal, je n'ai pas vu un seul registre disant que la commune était riche.
Oui.
La commune a toujours été pauvre.
Il vaut mieux le dire aussi.
Et ce